À Rencontre spirituelle aujourd'hui, il serait question de l'Esprit Saint. C'est le bon moment. D'abord, c'est l'année de l'Esprit Saint. Et en plus de ça, à mon avis, c'est l'année de l'Esprit Saint chaque année, évidemment, mais disons qu'on insiste davantage cette année. Et puis, c'est aussi la Pentecôte qui s'en vient. Et je crois qu'il est très important de parler de Dieu dans sa manifestation propre de cette troisième personne de la Trinité. Tout ça semble bien complexe et bien compliqué. On peut se demander qu'est-ce qui se passe. Au fond, il n'y a qu'un seul Dieu. Et dans cette manifestation de ce Dieu, dans la personne de l'Esprit-Saint, il y a des choses d'une richesse et d'une beauté magnifique. Vous savez que des grands hommes comme le cardinal Congar, qui était... J'ai eu la chance, je ne veux pas me vanter, là, j'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois en faisant mes émissions à la télévision de Radio-Canada. J'ai rencontré aussi bien en France, dans son couvent de Saint-Jacques, là-bas à Paris, puis je l'ai rencontré aussi à Ottawa, puis à Montréal. C'est un homme qui s'est transformé avec le temps parce qu'il est très grand théologien, très spécialisé sur toutes sortes de questions. Il a écrit d'énormes volumes. Il est devenu d'une grande tendresse et un homme magnifique en vieillissant. Alors qu'il était peut-être un peu impatient quand il était plus jeune, ce cher père Congar. Il est devenu le cardinal Congar, donc pas longtemps avant de mourir. Et il a écrit l'expérience de l'esprit. Et puis, il a écrit aussi, en parlant de du Christ, il est Seigneur et donne la vie, puis, etc. Ça fait trois gros volumes, parus en 95, en particulier, Je crois en l'Esprit Saint. Il a écrit toutes sortes de choses sur l'Esprit Saint, absolument admirables. C'est de toute beauté. Qui connaît ça? Rares sont les gens, on en parle si peu. Il y a le père Bouillé, Louis Bouillé, qui était protestant aussi, un pasteur protestant qui est devenu un des prêtres catholiques les plus éminents, qui a écrit ce livre que beaucoup de gens d'entre vous, vous devez connaître, Le Consolateur, Esprit Saint et Vie de Grâce, paru il y a déjà 18 ans aux éditions du Cerf, mais je crois que c'est toujours disponible. Ce sont des livres solides. Puis le cardinal Balthazar, aussi Hans-Urs von Balthazar, qui a publié « L'Esprit de vérité ». C'est juste pour vous donner une idée de ce qui s'est passé chez des très grands spécialistes, grands théologiens. Puis il y a eu aussi une encyclique du pape sur l'Esprit Saint dans la vie de l'Église et du monde, qui s'appelle « Dominus et Vivificantem »,« Seigneur et Vivificateur ». Mais qui lit ça? Qui lit ça? Il y a des documents de 120 pages, il y a des ouvrages de René Laurentin aussi, qui sont plus accessibles. Monseigneur Joseph Doré, que vous avez vu aussi à Rencontre quand il était simple prêtre et qui est devenu archevêque de Strasbourg, a fait paraître aussi des choses intéressantes. C'est pour vous dire que... Plutôt que de dire qui est l'Esprit Saint, ce qui, bon, c'est, vous en avez déjà parlé, on va voir aujourd'hui ce qu'il fait pour nous. À quoi ça sert, comme on dit simplement sur le plancher des vaches, là? Parce qu'il y a l'expérience qui est celle des saints, et qui peut et doit être celle, il me semble, de chacun d'entre nous. Nous sommes tous appelés à la sainteté, chacun à notre façon. Il paraît que beaucoup de gens, on sera surpris quand on va arriver au ciel, on va dire, mon Dieu, c'est un saint, je ne m'étais jamais rendu compte de ça. Des gens, bien oui, qu'on aura connus, ils seront des saints. Ils nous seront émerveillés et remplis de joie. Alors, il y a donc la révélation dans la Bible qui nous parle de ça. Hein? Il n'y a pas si longtemps, je me souviens, il y avait beaucoup trop de chrétiens qui se contentaient encore de prier l'Esprit Saint lorsqu'ils avaient une décision importante à prendre ou un examen difficile à passer. C'était comme ça dans les années 40-50. Hein? Puis on récitait tous ensemble. « Veni Sancti Spiritus, repetuorum corda fidelium et tui amoris manchendi. » On marmonnait des mots. On savait pas trop ce qu'on disait. C'est une façon invraisemblable de traiter cet esprit qui est Dieu, qui est l'amour même. Est-ce qu'on a idée du rôle de l'Esprit-Saint? Alors, je vais donc vous montrer comment la Bible nous révèle progressivement l'existence de l'Esprit-Saint. Il existe, il est vivant, il est merveilleux quand on s'y donne et quand on se donne à lui, quand on le laisse pénétrer notre intelligence, notre mémoire, notre volonté, notre cœur surtout. Et là, nous pourrons voir ensuite ce que le Nouveau Testament nous apprend aussi sur l'action que l'Esprit-Saint exerce dans notre vie quotidienne. C'est très, très, très important. Extrêmement important si on veut être chrétien. Autrement, on risque d'être des zombies. Alors, on va aller aux sources dans la Bible. Dans l'Ancien Testament. Dans les premières lignes de la Bible. On rencontre le mot « esprit ». Bien oui, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux quand Dieu crée le monde. C'est dans la Genèse, au chapitre 1, verset 2, le deuxième verset de la Bible, hein, déjà. Et le mot hébreu qui est employé, c'est « roi ». Je pense qu'on vous a déjà dit ça à Radio Ville-Marie bien des fois. Il a été traduit en grec par « pneuma », qu'on connaît, et en latin par « spiritus », hein, « béni sancti spiritus », puis en français par « esprit », qui vient de « spiritus ». Dans la Bible, ce mot désigne quoi? Mais c'est le vent qui souffle. Comme dans le texte dont je vous ai parlé, de Genèse, le premier livre de la Bible, premier chapitre, deuxième verset. Soit le souffle de l'homme, ça veut dire ça aussi, le souffle de l'homme, sa respiration, soit l'esprit de l'homme, tantôt enfin l'esprit de Dieu. Alors il faut discerner évidemment. Et quand il a ce dernier sens d'esprit de Dieu, ben le mot désigne une force divine, hein? Une force divine, écoutez bien, c'est pas une petite force, là. C'est une force aussi violente que celle du vent. Vous savez qu'il y a des vents sur le soleil, on disait ça en fin de semaine, des vents sur le soleil qui vont à 500 000 kilomètres à l'heure. Sur le soleil. L'énergie qu'il y a dans l'univers, on vient de découvrir aussi une explosion dans l'univers absolument phénoménale, qui serait presque l'explosion initiale, d'il y a 12-15 milliards d'années. C'est une puissance dans cette matière. Mais la force divine, elle est forte. C'est une force aussi violente que celle donc du vent, qui transforme des personnes humaines pour les rendre capables de quoi? De gestes exceptionnels. Et on le voit dans la vie des saints, on le voit dans la vie de certaines personnes autour de nous, ou dans la vie très simple, d'une mère qui se lève la nuit, ou d'un père qui se lève la nuit, épuisé, fatigué, les yeux cernés, pour s'occuper de son enfant, mais dans la joie, avec une tendresse et des gestes exceptionnels. Mais pourtant, ils sont pas exceptionnels, ils sont quotidiens. Mais c'est exceptionnel dans le sens que c'est si beau de générosité. Alors, l'Esprit de Dieu, si dans la Bible, on le voit qu'il s'empare des juges dans l'Ancien Testament, des rois et des prophètes, il y remplit, leur fait accomplir des œuvres qui les dépassent, ce sont des œuvres qui visent toujours à conduire le peuple de Dieu à lui faire remporter quoi? La victoire sur ses ennemis, puis à en faire le serviteur du Seigneur. Je vous en ai parlé en parlant des lits. Mais tout ça est d'une telle violence. Je vais reprendre cet été, il y a des reprises cet été à 10 heures le soir. Je vais vous parler de ça. Pourquoi tant de violence dans la Bible? C'est un drame pour nous chrétiens. C'est difficile, c'est difficile. Et on applique ça à l'Esprit-Saint. C'est une vieille tradition. Mais je passe. Les juges, les rois, les prophètes sont donc saisis par l'Esprit-Saint. Alors on voit chez les juges, là, c'est pas des juges comme on l'entend, là. Ce sont des chefs de guerre qui achèvent la conquête de la terre promise comme ils viennent de le faire encore au détriment des Palestiniens qui sont traités, vous l'avez vu dans la presse en fin de semaine, de façon épouvantable. Des villages sans eau, sans égout, sans rien. On leur donne le cinquième de ce qu'on donne aux Israéliens juifs, aux Palestiniens israéliens. C'est terrible, terrible. Il y a là beaucoup de chrétiens parmi eux, les catholiques. Et l'Esprit se manifeste donc chez les juges par le caractère surhumain. Surhumain de des actes d'audace et de force que ces juges sont, ou ces chefs de guerre, sont subitement en état d'accomplir. On peut lire dans le livre des juges, dans la Bible, l'Esprit du Seigneur commença à agiter Samson, vous connaissez Samson, et celui-ci, sans avoir rien en main, déchira le lion en deux. Ils reçoivent aussi le pouvoir de rassembler beaucoup d'hommes autour d'eux et de faire ainsi, pour un temps, l'unité du peuple juif ou d'une tribu. Alors, ces chefs guerriers, ces chefs de guerre, ces juges, ne sont que des libérateurs temporaires. L'Esprit les quitte une fois leur mission accomplie. Ils ont pour héritier les rois. Cette fois-là, ce sont les rois qui sont chargés, quant à eux, d'une fonction permanente. C'est une curieuse histoire que l'histoire de ce peuple qui nous précède dans la foi et auquel on doit notre foi en partie. Il faut la connaître pour détacher notre foi de cette histoire pénible qui demeure belle si on tient compte de l'époque. Alors les rois sont chargés donc d'une fonction permanente, puis l'onction d'huile, l'huile, qu'ils reçoivent sur la tête manifeste l'emprise de l'esprit qui les investit. C'est pour ça que dans l'Église catholique, comme dans certaines églises chrétiennes, nous utilisons de l'huile dans des sacrements pour manifester l'emprise de l'esprit qui est le fruit de l'amour éternel du Père pour son Fils et du Fils pour son Père. Cet esprit qui devient, depuis toujours, une personne, se donne à nous l'amour. Quand Samuel, ce roi, renverse une conne d'huile sur la tête du jeune David, on dit que l'esprit, c'est dans le texte, l'esprit du Seigneur fond sur lui. Oui, l'esprit du Seigneur s'empare de lui. Savez-vous que c'est ce qui nous est arrivé au baptême et à la confirmation? Le savons-nous? On ne le sait pas beaucoup. Chez les prophètes, là, dans l'Ancien Testament, l'esprit se manifeste surtout par une audace avec laquelle les prophètes, comme Élie dont je vous ai parlé la semaine dernière en vous parlant des carmes, des carmélites, etc. Il y a des gens qui ont beaucoup aimé ça, là. Chez les prophètes, l'esprit se manifeste surtout donc par l'audace avec laquelle ils vont trouver les princes de leur temps, les dirigeants, là, pour leur rappeler les exigences de l'alliance qui a été contractée entre Dieu et ce peuple. Des exigences morales profondes. Et bien souvent, le prophète n'a pas tellement envie de parler, parce qu'il sait qu'il va probablement se faire trancher la tête, mais il se sent obligé de le faire. C'est Isaïe qui dit au chapitre 8, « La main de Yahvé m'a saisi. » Êtes-vous saisi par la main de Yahvé? Avez-vous le goût de parler puis de dire ce que vous pensez avec paix et tendresse pour essayer de changer des choses dans votre paroisse? Pas facile. Yahvé dit, c'est-à-dire Isaïe dit aussi, c'est dans le texte, « Ne dis pas, je suis un enfant et je ne sais pas parler. » C'est Dieu qui dit ça à Jérémie plutôt. Car tous ceux à qui je t'enverrai, tu iras vers eux, et tout ce que je t'ordonnerai, tu le diras. Alors les prophètes expérimentent l'Esprit de Dieu comme une force, une grande force qui les pousse à parler. Mais ils reconnaissent aussi comme celui qui leur fait comprendre les projets de Dieu sur son peuple. Je vous rappelle que le mot prophète, ça signifie pas celui qui prédit l'avenir comme Jojo et tant d'autres qu'on voit à la télévision tard le soir, là. On la voit plus, Jojo, d'ailleurs. Mais c'est celui qui parle au nom de Dieu, prophète, pro-Dieu. Dans l'Ancien Testament, on trouve aussi l'annonce d'un Messie rempli par l'Esprit. Et peu à peu, à partir de l'exil du peuple juif à Babylone, mais les prophètes annoncent qu'un temps viendra où ils ne seront plus seulement quelques personnes qui seront inverties par l'Esprit, mais tous, jeunes et vieux. C'est vous, ça. Le vieux, c'est moi, évidemment. Hommes et femmes, esclaves, hommes libres, seront remplis de l'Esprit de Dieu. Et c'est ce qui survient aujourd'hui dans l'Église. Nous sommes tous remplis de l'Esprit de Dieu, mais qu'est-ce qu'on en fait? Cet Esprit leur permettra d'accomplir en vérité la loi divine, d'être fidèles dans l'amour. Elle ne sera plus seulement inscrite sur des livres, la loi, sur des tables de pierre, comme au Sinaï, là, quand Moïse est allé les chercher. Non, la loi sera gravée par l'Esprit, même de Dieu, dans le cœur des hommes. Il deviendra ainsi un cœur nouveau. Avons-nous vraiment un cœur nouveau, capable d'amour authentique, comme il est dit dans la Bible? Oui, capable d'amour authentique. Et troisième élément de la promesse, et non le moindre, cet Esprit sera communiqué à tout peuple, tout le peuple, par l'intermédiaire d'un être mystérieux que les prophètes appellent de plus en plus Messie de Dieu, loin de Yahvé. Et ce roi à venir sera tellement pénétré de l'huile d'allégresse, toujours l'huile qui symbolise l'Esprit Saint, c'est beau de l'huile, c'est de l'huile, c'est pur, c'est de l'huile d'olive, tellement rempli de l'Esprit de Dieu, que ce oint-là, ce Messie, va pouvoir le répandre en abondance sur les membres de son royaume. Alors c'est Jésus qui fait ça. Je vous enverrai l'Esprit, dit Jésus. Le prophète Isaïe annonce à plusieurs reprises la venue de cet homme, fils de David, tout pénétré d'Esprit de Dieu. Un rejeton sortira de la souche de Jessé, c'est dit, et sur lui reposera l'Esprit du Seigneur, Esprit de sagesse et d'intelligence. Puis c'est dit aussi, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a donné l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. C'est Jésus, ça, c'est des paroles qui viennent de la bouche de Jésus 500 ans avant sa naissance. Pour panser les cœurs meurtris, pour annoncer aux captifs leur libération. Oui, nous sommes libérés si on veut bien se libérer. Alors on reconnaît évidemment le texte que Jésus a un jour dit dans la synagogue de Nazareth. Hein. Alors, dans le Nouveau Testament, maintenant, on va passer dans quelque chose qui nous est plus familier. On voit donc que Jésus se révèle le Messie. Hein, il est le Messie promis, il le dit. Comment Jésus, au début de sa prédication, réussit à manifester qu'il est le Messie, tout rempli de l'Esprit de Dieu? Mais il le fait en parlant avec autorité. C'est dans Saint-Luc, au chapitre 4, verset 32, il parle avec autorité. Une autorité à laquelle les Juifs n'étaient pas habitués. Une autorité qui vient d'ailleurs. Il le fait aussi en chassant les démons. Vous direz, c'est des histoires. Non, faut pas mettre ça de côté si facilement. Il chasse les mauvais esprits par la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est trop facile de toujours rejeter tout ça en prétendant que ça se fait plus aujourd'hui. C'est pas vrai, ça se fait encore aujourd'hui. D'ailleurs, il le dit, c'est dans Matthieu chapitre 12. « Si c'est par l'Esprit de Dieu que j'expulse les démons, c'est Jésus qui parle, si c'est par l'Esprit de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. » C'est une façon d'affirmer sa messianité, c'est-à-dire le fait qu'il est l'envoyé promis depuis des siècles. D'ailleurs, quand on lit des histoires d'exorcisme au 20e siècle, j'en ai lu de sérieux, écrits par des gens sérieux, on voit que même des luthériens ont recours aux exorcistes catholiques. Catholiques, je le dis, sans vouloir blesser mes frères protestants. Ça arrive souvent qu'ils voient que certains prêtres catholiques, délégués par l'évêque, avec ce pouvoir étrange et mystérieux, ont un pouvoir parce qu'ils sont à la fois aussi souvent des psychiatres ou des psychologues, des gens très avertis des questions de névrose, de maladies de toutes sortes, avant d'exercer leur pouvoir d'exorciste. Vous direz que je nage en plein Moyen-Âge, ça ne me dérange pas. Je lis des choses sérieuses, je vous les rapporte en toute simplicité, même si je passe pour quelqu'un qui comprend rien. Et comment les premiers convertis de la Pentecôte, il y a 200 ans, ont-ils cru que Jésus de Nazareth crucifié 50 jours plus tard était bien le Messie? Bien, c'est en voyant que ses disciples se mettaient à chanter à tue-tête les merveilles de Dieu dans les rues de Jérusalem, puis à les chanter dans des langues qu'ils ne parlaient pas d'habitude, vous vous souvenez, hein? Après avoir attribué le phénomène à l'alcool, ils ont bien compris que ces hommes étaient habités, oui, ces hommes-là étaient habités par l'Esprit. L'Esprit Saint, que par conséquent, celui qu'ils annonçaient était bel et bien le Messie Jésus, capable de répandre l'Esprit sur tous les hommes. Oui, Jésus est capable de répandre l'Esprit sur tous les hommes, toutes les femmes, évidemment. Soyons sérieux. C'est d'ailleurs comme ça que Pierre, Saint-Pierre, le premier pape, commente l'événement dans son discours aux pèlerins de la Pentecôte, la toute première homélie de l'histoire de l'Église qui nous est rapportée. Oui, c'est la première homélie. Écoutez bien ça. Non, mes frères, nous ne sommes pas ivres. Il n'est que 9 heures du matin. C'est ce qu'il dit. Nous ne sommes pas pleins de vin, mais d'Esprit Saint. La prophétie de Joël s'est réalisée, ajoute Saint-Pierre. Les temps messianiques sont arrivés. Voici que l'Esprit Saint commence à se répandre sur toute chair, sur tous les membres du peuple de Dieu. Où est-ce qu'on prend ça? Ben, vous le savez presque tous. C'est dans le livre des Actes des Apôtres. Dans le Nouveau Testament, au chapitre 2. Les Actes des Apôtres, c'est la première histoire de l'Église, si vous voulez. C'est écrit par Saint-Luc, un médecin. Est-ce qu'on est assez conscient de ça? Que l'Esprit-Saint commence à se répandre sur toute chair, sur nous tous. Je suis sûr qu'on n'est pas conscient. Et c'est triste à hurler, des fois. Nos églises sont vides de l'Esprit-Saint, sont mornes. Nos enfants s'ennuient. J'entends des jeunes que j'amène qui me disent « c'est plate, on s'en va, c'est plate. » Oui, parce qu'il n'y a pas de tendresse, il n'y a pas de fraternité. Ah, on sort de là tout seul, on va là seul, on sort seul. La solitude. C'est pas comme ça dans toutes les églises. J'ai beaucoup d'amis qui ont des paroisses vivantes. Hein. Dans le Nouveau Testament, Jésus annonce le caractère personnel de l'Esprit. Dans les derniers mois de sa vie, Jésus a annoncé de plus en plus clairement à ses apôtres qu'il leur enverrait un autre paraclet, hein? Un défenseur, en d'autres termes. J'aime pas tellement ça, le mot défenseur. Un animateur. L'esprit de vérité, quoi. Va les animer, qui leur permettrait de comprendre en profondeur tout ce qu'il leur a dit et qu'ils n'ont pas encore assimilé. Prend du temps à comprendre ce que Jésus nous dit. Hein. C'est pourquoi, ajoute Jésus, c'est votre intérêt que je m'en aille, car si je ne pars pas, le paraclet ne viendra pas vers vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Je trouve ça un peu étrange. Moi, je me dis, la Trinité nous habite. Hein. Enfin, il y a ces paroles dans les évangiles, moi, qui me gênent. Je le dis très franchement, en toute simplicité. Savons-nous vraiment ce que nous avons reçu de toute façon? Lorsque Jésus est ressuscité, qu'il se montre à ses disciples, il ne cesse de leur promettre quoi? La venue imminente de l'Esprit, qui est une force qui leur permettra de réaliser leur mission à travers le monde, c'est dans Saint-Luc au chapitre 24. Une force! Oui! Nous savons comment les apôtres ont été investis de cette force. Vous savez, quand ils priaient avec Marie dans le Cénacle, c'est ce que nous allons célébrer le jour de la Pentecôte, ben nous aussi, nous l'avons reçu, le même esprit. Quand on regarde ça, on se dit, ah, ils sont chanceux, ils ont reçu l'Esprit Saint, et nous, qu'est-ce qu'on en fait? C'est clair, hein, Jésus envoie l'Esprit sur nous et en nous. Il n'est pas indifférent que cette promesse se soit réalisée à la fête de la Pentecôte. Les Juifs, ils célèbrent, eux autres, le don de la loi qu'ils ont reçu. C'est toujours la loi. Hein? Ils sont très arrêtés sur la loi. Ils ont reçu de Dieu au Sinaï par l'intermédiaire de Moïse. Nous autres, c'est pas pareil. C'est pas une loi. Parce que les chrétiens célèbrent désormais ce jour-là. On célèbre le don, le jour de la Pentecôte, le don de l'Esprit qu'on a reçu par l'intermédiaire de Jésus qui est le nouveau Moïse. Alors que soufflait là, dans le Cénacle, à Jérusalem, dans cette pièce-là, un coup de vent violent, c'est dans le texte, hein, et qui brillait des langues de feu au-dessus de leur tête, manifestations qui ne sont pas sans rappeler la grande manifestation de Dieu sur le mont Sinaï, d'accord? Mais c'est pas une loi qui est une loi qui nous enseigne à comment être heureux, c'est sûr, mais l'Esprit-Saint nous enseigne l'amour, le don, le débordement, comme l'explique saint Paul dans sa lettre aux Romains. Donc, caractéristique de la Nouvelle Alliance est le don de l'Esprit-Saint, ce Dieu d'amour éternel qui se donne à nous, qui s'empare de nous. L'Esprit ne supprime pas la loi, mais il permet d'accomplir la loi avec un cœur nouveau. Hein. Il fait déborder en nous l'Esprit. Il fait déborder en nous l'Esprit dont Jésus est lui-même comblé. Et le Père, Dieu le Père, n'a qu'un seul moyen de communiquer à ses enfants l'Esprit dont il veut les remplir pour les transformer, les diviniser, c'est de les mettre en contact avec la chair même du Christ Jésus. Quand on communie, c'est ça. On accroît la présence de l'Esprit-Saint, de la très sainte Trinité, car le Christ Jésus, c'est en lui, selon la vigoureuse formule de saint Paul, qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, et d'où la place centrale de l'Eucharistie dans l'œuvre de notre libération. Voulez-vous être libéré, joyeux, communié avec foi, c'est en mangeant le corps de Jésus, c'est en buvant son sang, donc en s'unissant son âme, son sang c'est son âme, hein, que nous pourrons recevoir l'Esprit-Saint dans toute sa richesse, le corps et l'âme de Jésus ressuscité. Ah, mais les autres sacrements nous ouvrent également cette effusion de l'Esprit, c'est sûr. C'est un appel à l'Esprit-Saint, c'est une descente de l'Esprit dans nos cœurs. Il y a l'imposition des mains, c'est quand quelqu'un dépose, pour ainsi dire, ses mains sur la tête de quelqu'un d'autre. Voilà pour la révélation progressive de l'Esprit-Saint dans la Bible. Que vient faire l'Esprit-Saint dans nos cœurs, nous allons voir ça tout à l'heure. Mais il faut savoir, il faut connaître notre foi, il faut la comprendre, il faut en connaître les origines, mais aussi ce qui se passe dans nos cœurs par l'action de l'Esprit-Saint. C'est pas des histoires en l'air. Pas des histoires inventées, puis tout ça pour faire des homélies, puis des émissions. C'est une réalité concrète. Concrète. Ce que l'Esprit-Saint produit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, la patience, la bienveillance,
la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Qui dit ça, c'est saint Paul, il y a 2000 ans, dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 22. Et on va aborder ça. On va aller voir. Saint Paul revient souvent dans ses lettres sur l'action de l'Esprit-Saint dans le cœur des croyants. Si la vie chrétienne mérite d'être appelée vie spirituelle, c'est bien parce qu'elle est une vie suscitée et entretenue par l'Esprit. Notre foi, c'est pas une foi de croire en ceci, en cela, et d'affirmer des choses. C'est de vivre. Il faut affirmer les choses et y croire, c'est sûr. Il s'agit de vivre. Autrement, je vous le répète, nous serons des zombies, des observateurs de loi, des gens qui observent des règlements. Où est-ce qu'on va avec ça? Est-ce que ça change le monde, ça? Ça change nos cœurs? Notre vie chrétienne, c'est une vie spirituelle, entretenue par l'Esprit. Autrement, il n'y a plus de vie chrétienne. Nous devenons de bons chrétiens, entre guillemets, des fonctionnaires de Dieu, comme dit Treverman. C'est tout ce qu'on devient. Car l'Esprit nous habite et ce n'est pas pour rien. Nous sommes tellement enfants de Dieu à part entière que Dieu notre Père, au cœur de la Trinité, au cœur de notre cœur, du fond du cœur de notre être, il est là. La Trinité est là. Cessons de lever les mains en disant « Dieu le Père en haut, là-bas, sur les nuages. » Au fond du tréfond de notre être. Eh bien, le Père nous accorde exactement le même don qu'il fait à son Fils bien-aimé au sein de la vie trinitaire. Waouh! Le même don? Oui, il ne cesse de nous envoyer son Esprit. Qu'est-ce que c'est? Essayons. Donc, c'est le baiser perpétuel du Père à ses enfants. Nous sommes continuellement embrassés par le Père. Et c'est l'Esprit. Nous sommes les temples vivants de l'Esprit-Saint de la Trinité. La grande raison pour laquelle nous ne devons pas livrer notre corps à l'impureté, c'est ça. Nos corps doivent être purs. Tantôt, c'est ça, on devient passionné de Dieu, fou de Dieu. Vous direz que je suis exalté. C'est exaltant. Regardez les gens parler de leur d'une rondelle qui est entrée dans un but à une partie de hockey à la troisième période, 2 minutes avant la fin. Ils sont exaltés 100 000 fois plus que nous pour une rondelle de caoutchouc. L'Esprit nous divinise. Ah, oh mon Dieu, l'Esprit, sa présence, c'est pas statique, c'est pas plate, c'est pas ennuyant. C'est pas ennuyant. Cette présence de l'Esprit-Saint en nous, c'est dynamique. Regardez les pentecôtistes, nos frères protestants pentecôtistes. Il y en a parmi eux qui sont vraiment remarquables. Chez les charismatiques aussi, on en voit de temps en temps des gens pris par l'Esprit qui sont remarquables. Oh, je sais qu'il y a des exaltés de façon étrange. Il y a des gens très bien. Donc, cette présence est dynamique et transformante. Et par son Esprit, le Père fait quoi? Il nous rend participants de la nature divine. Qui dit ça? C'est saint Pierre, le premier pape, dans sa deuxième épître, au tout début. Il nous communique sa propre vie. C'est dans saint Jean, chapitre 3, oui. Le Père nous communique sa propre vie. Vous sentez-vous là, fatigué? Avez-vous besoin de vitamines? L'âme a besoin de vitamines, besoin de vie divine. Et cette transformation par l'Esprit du fond de notre être nous rend gracieux aux yeux du Père, capable de lui plaire en vérité. C'est ce que la théologie appelle la grâce sanctifiante ou divinisante, dont on ne parle plus, la grâce sanctifiante. Changeons le mot grâce par présence, sa présence sanctifiante. Les pères de l'Église, qui ont écrit pendant les 1000 premières années de l'histoire du christianisme, s'émerveillent souvent de cette divinisation, la théiosis en grec. La divinisation, moi, ça m'a toujours surpris un peu. La divinisation de l'homme qui s'accomplit par l'esprit dans les sacrements. Attention au mot divinisation. Nous ne tombons pas dans l'atma, comme disent les hindous. Nous ne devenons pas Dieu en tant que tel. Nous sommes toujours nous-mêmes. Nous y devenons vraiment des êtres tout neufs, comme dit saint Paul dans l'épître de la deuxième aux Corinthiens. Je cite les textes parce que souvent les protestants croient que nous ne connaissons rien à l'écriture. Les catholiques, nous connaissons notre Bible beaucoup mieux qu'on pense. Et nous la lisons tous les jours à la messe. 365 jours par année, quand on va à la messe tous les jours, nous lisons des textes et nous les méditons. Nous y devenons vraiment des êtres donc tout neufs jusqu'au jour où l'Esprit Saint s'emparera de nos corps eux-mêmes pour en faire des corps glorieux. À l'image de celui qui est déjà ressuscité d'entre les morts, Jésus, dans l'Épître aux Romains, chapitre 8. Mais dès cette vie, écoutez bien, dès cette vie, on aperçoit parfois sur le visage des saints un reflet de l'action divinisante de l'Esprit dans le fond de leur cœur. J'ai déjà raconté l'expérience que j'ai eue à Rome avec Denise Bombardier. Nous avions interviewé Petite Sœur Annie, qui a succédé à Petite Sœur Madeleine, fondatrice des Petites Sœurs de Jésus, les Petites Sœurs de Foucault. Vous avez un petit fichu bleu sur la tête. Elles sont des centaines sur la terre. Et Petite Sœur Annie est venue à l'hôtel où nous étions à Rome pour se faire interviewer gentiment. Mais c'était une sainte. Il y avait dans son visage un reflet de cette action divinisante de l'Esprit dont je viens de vous parler. Et quand elle est partie, je suis allé la conduire et en revenant, eh bien, Denise Bombardier et les autres disaient à peu près ce qui suit. C'est curieux, quand elle est partie, il manquait quelque chose. C'est comme une présence qui était disparue. C'est la présence de l'Esprit Saint, la présence de l'Esprit d'amour de Dieu. Il suffit de penser à ce qui était devenu le regard du père de Foucault, d'ailleurs, à la fin de sa vie. Avez-vous déjà vu des belles photos de ça? J'avais présenté ça à la télévision en parlant du père de Foucault. Le contraste saisissant entre l'élève de l'école de Saumur quand il est jeune, là, puis il se conduit très mal, puis il dépense des sommes folles. Il a l'air d'un gros porc. D'ailleurs, il était surnommé le porc par ses camarades de promotion. Puis il devient cet ermite de Taman Rasset en Afrique du Nord. Pur, un regard de saint. Il est transformé par l'Esprit Saint. On se souvient aussi de la façon dont Séraphim de Zaroff, dont j'ai une belle icône dans mon salon, je suis fier de ça, c'est un saint russe orthodoxe, saint ermite russe, Séraphim de Zaroff. On raconte, et c'est authentique paraît-il, qu'il est arrivé un jour pendant l'hiver de 1831 à son disciple Motobilov. Il est apparu. C'est extraordinaire. Son starets, le visage tout habillé de soleil. On appelle ça un starets, un saint comme ça. Celui-ci, le Motobilov, a donc l'aperçu tout habillé de soleil. Et dans ces transformations passagères qui arrivent à certains saints, ça ressemble au mont Tabor, hein, où Jésus s'est transfiguré. Le Seigneur veut nous montrer que dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, même si ce que nous serons n'est pas encore manifesté, comme dit saint Jean dans sa première épître. Et depuis l'Esprit, il nous purifie. Oui, il nous purifie. Heureusement, nous en avons bien besoin. Moi, en tous les cas, j'ai toujours besoin chaque jour de purification. Et nous ne vivons pas toujours en enfant de Dieu. Hein? Loin de là, c'est donc difficile. Nous sommes lâches, moi le premier, et nous nous laissons reprendre par le vieil homme. Oui, le vieil homme qui traîne en nous. Toutes les convoitises qui nous détournent d'une vie dans l'amour. Or, l'Esprit nous vivifie. Comment? En nous aidant d'abord à reconnaître notre véritable culpabilité devant Dieu. Pas une culpabilité, là, qui nous tourmente, mais une culpabilité, je dirais, sereine et confiante en la miséricorde de Dieu, mais un sentiment de culpabilité vrai, qui ne crée pas les tourments névrotiques, là. Parce que l'Esprit Saint, il assouplit notre cœur pour que nous ne... qu'on reste pas à persister dans notre orgueil puis dans nos petites raideurs. Oui, l'Esprit Saint guérit aussi nos blessures, renouvelle le fond de notre cœur, comme dit saint Paul dans la deuxième aux Corinthiens. Les sacrements sont de véritables bains de jouvence. Communier. Se confesser. Il a été question du sacrement de rétablissement ce matin-là. ou de renouvellement. L'abbé Claude Bertrand parlait de ça juste avant moi. Il va être interviewé tout à l'heure. Les sacrements sont donc de véritables bains de jouvence, dans lesquels nous sommes invités à nous laisser rajeunir. C'est bien plus efficace que tout ce qu'on nous annonce dans les journaux pour nous rajeunir. C'est bien meilleur que les pommades. Dans nos hymnes liturgiques, nous demandons souvent à l'Esprit-Saint de poursuivre en nos cœurs cette œuvre de purification. On lui chante de beaux hymnes. « Ôte l'ivraie de nos péchés, qui menace en nous le grain. Au plus profond des cœurs, purifie et transforme. » Je rappelle que... Imaginez-vous que vous êtes un ensemble de sphères. Vous savez, les boules chinoises, les Chinois font des boules, une boule dans une boule, dans une boule, dans une boule, dans une boule, dans une boule. Imaginez-vous que vous êtes comme ça. Et puis, notre extérieur, ben, il est pris par les futilités du monde, puis la deuxième boule, un peu moins, etc. Puis dans la boule à l'intérieur, là, Dieu est là. Qui nous purifie, qui nous transforme. Faut pas oublier aussi que l'esprit nous anime, il nous fait vivre. Il devient l'âme de notre âme, c'est-à-dire qu'il vient donner à toutes les facultés de notre âme des réflexes d'enfant de Dieu. C'est si beau d'être enfant de Dieu. Il est au principe de notre foi, à l'origine de notre foi. Et personne ne peut dire « Jésus est Seigneur » si ce n'est dans l'Esprit Saint. Qui dit ça? C'est saint Paul dans la première aux Corinthiens. Personne ne peut dire « Jésus est Seigneur » si ce n'est dans l'Esprit Saint. Le dire vraiment? Si on dit « Oh, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Non, Jésus est Seigneur. Quand on le dit avec cette conviction profonde qui vient du cœur, pas comme un comédien, comme je pourrais peut-être le faire, mais comme les saints le font, là, ça, c'est l'Esprit-Saint. Et Jésus disait déjà à ses disciples que personne ne peut aller à lui sans que le Père ne l'attire. Hein? Saint Jean, chapitre 6. C'est-à-dire, sans cet Esprit que le Père nous envoie pour qu'il nous projette vers son Fils. Et tout ça se déroule au fond de notre cœur, dans le tréfond du tréfond du tréfond. L'Esprit-Saint est au principe, au début, à l'origine de notre espérance. Hein, que l'espérance surabonde en vous par la vertu de l'Esprit-Saint, hein, dit saint Paul aux Romains. C'est l'Esprit-Saint qui nous permet de vivre intensément l'instant présent, vivre intensément l'instant présent. C'est là qu'est la sainteté, c'est là qu'est Dieu. Dieu est dans l'instant présent, pas dans l'instant tout à l'heure, ni dans l'instant tout à l'heure, en avant ou en arrière. Dieu est là. Il nous empêche de succomber aux tentations qui naissent souvent dans notre âme, lorsque nous rêvons à notre passé et à notre avenir. Tentations de vanité, vanité, vanité. De découragement aussi, puis d'inquiétude, puis d'angoisse. Hein? Le démon rôde. Mais l'Esprit est là, heureusement. Et l'Esprit-Saint, troisièmement, est au principe de notre charité. Qu'est-ce que ça veut dire, la charité? Donner 5 cents, 10 cents, 25 cents? Pas ça. Évidemment, vous le savez tous. C'est lui qui nous permet d'aimer le Père de tout notre cœur. C'est lui, l'Esprit-Saint, qui nous permet de nous élancer vers lui, le Père, et de nous offrir à lui. C'est l'Esprit-Saint qui vient rectifier, dynamiser, si on pourrait dire, cette espèce d'élan naturel de notre cœur vers Dieu. On ressent cet élan naturel. Hein? On a besoin d'aller vers Dieu, mais on est trop mou. Mais l'Esprit-Saint vient rectifier ça. Il dynamise ça. Il met du carburant, quoi. C'est lui qui nous donne d'aimer le Christ, notre Seigneur. C'est également lui qui nous fait aimer nos frères avec le cœur même de Dieu, avec ce cœur nouveau que nous demandons à Dieu de nous donner. Et enfin, l'Esprit-Saint, il est au principe, à l'origine de toute notre conduite morale. C'est lui qui nous permet de vivre les béatitudes évangéliques qui nous rendent heureux. Béatitude, le bonheur, bienheureux ceux qui vivent ça, hein? Dit Jésus. C'est lui qui nous permet de les vivre. Puis dans sa lettre aux Galates, saint Paul donne la liste des quelques fruits de cette action de l'Esprit-Saint dans nos cœurs, je l'ai dit au début. Charité, joie, paix. Longanimité, serviabilité, la bonté, la confiance dans les autres, la douceur, la maîtrise de soi. Chapitre 5 de l'Épître aux Galates. Nous ne sommes pas toujours conscients de cette influence fantastique, super magnifique et merveilleuse de l'Esprit dans notre vie quotidienne. Mais ici encore, c'est sur la parole de Dieu que nous y croyons. Il y a d'autres choses qui nous viennent de l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint nous fait prier. Alors je vous ai dit que l'Esprit-Saint nous fait prier. L'Esprit-Saint vient au secours de chacun d'entre nous. Nous avons de la misère à prier des fois. Ah, que c'est pas facile. S'arracher. Mais l'Esprit-Saint est très spécialement l'animateur de notre vie de prière. C'est saint Paul qui dit, et je trouve ça très intelligent de sa part, « Nous ne savons quoi demander pour prier comme il faut, mais l'Esprit intercède pour nous en des gémissements ineffables. » Écoutez bien ceci. C'est le père Descouvemont qui inspire, vous savez, c'est toujours son livre, le guide des difficultés de la foi catholique, paru aux éditions du Cerf, un gros bouquin, je vous le recommande, par le père Descouvemont, Pierre Descouvemont. Guide des difficultés de la foi catholique. Il dit, dans ce texte qui m'inspire aujourd'hui, « L'Esprit est à la fois le don perpétuel du Père à son Fils et l'élan perpétuel du Fils vers le Père. » Je répète parce que c'est la clé, hein, pour comprendre un peu quelque chose. « L'Esprit Saint est à la fois le don perpétuel, éternel, du Père à son Fils, et l'élan perpétuel, éternel, du Fils vers le Père. Ensemble, ils ne forment qu'un seul Dieu, trois personnes. » Alors, Pierre Descouvemont ajoute, après avoir fait cette phrase, « Notre vie spirituelle se simplifie considérablement dès que nous avons bien compris cela. Prier, c'est accueillir ce don et nous laisser emporter par cet élan. » Je répète, c'est très important. Vous pourriez l'écrire. Prier, c'est accueillir ce don, qui est l'esprit d'amour, et nous laisser emporter par cet élan. C'est ça, prier. Si nous étions comme ça à la messe, hein, on ne se tiendrait pas tout croche. Et on chanterait avec une certaine ferveur. Comme l'abbé Jean-Pierre Couturier qui célébrait la grand-messe hier à la cathédrale. C'était beau. Ah, qu'un enthousiasme, une passion, une ferveur, une justesse dans le ton où il chante si bien. Toute sa messe était chantée, même le canon, mais la prière centrale de la messe, là. Tantôt, nous accueillons l'Esprit que le Père nous donne par le Christ. Notre prière se fait ouverture à l'amour du Père, à l'invasion de son Esprit, car pour le Père, là, aimer et donner son esprit, c'est tout un, c'est sa façon éternelle d'aimer. C'est sa façon éternelle d'aimer, Dieu notre Père. Il aime donner son esprit. Prier, c'est se laisser envahir par le fleuve d'eau vive qui vient du Père et qui passe par le côté transpercé de Jésus. Et de temps en temps, nous nous laissons emporter par ce même esprit vers le Père, en répétant avec amour et confiance le mot même que Jésus ne cesse de dire à son Père, « Abba ». Papa. Tout au fond de nous-mêmes, dit saint Paul, l'Esprit se joint à notre cœur pour qu'à notre tour nous disions Abba, papa, papa, papa. C'est comme ça qu'on retrouve dans la prière, qui est une respiration de notre âme, le double mouvement de la respiration de nos poumons. Du moment que j'accueille l'Esprit Saint qui vient combler mon cœur, et le régénérer de fond en comble. C'est la phase d'inspiration. Puis après, mais emporté par ce souffle divin, je me laisse entraîner vers le Père. C'est la phase d'expiration. En terminant ces quelques propos de ce que fait l'Esprit Saint en nous, il faut pas oublier que l'Esprit nous dirige. Comment? Parce qu'on appelle les dons du Saint-Esprit. L'abbé Couturier a publié, d'ailleurs, dans le semainier paroissial, un bel article sur les dons du Saint-Esprit. Mais c'était au 8 février dernier. C'était très bien fait. Il arrive que le chrétien perçoive dans le fond de son cœur une impulsion de l'Esprit-Saint. On sent ça des fois. C'est l'expérience que faisait Ignace d'Antioche. Ah, ce saint magnifique. Je vais le repasser cet été, ça. Sur le bateau qui l'amenait à Rome. Un saint qui a connu saint Jean, ça, vous savez, c'est un des premiers saints. Il était amené à Rome pour être mangé par les bêtes dans le Colisée, dans l'amphithéâtre. Puis il dit, « J'entends une eau vive murmurer au-dedans de moi, viens vers le Père. » Saint Ignace D'Antioche qui dit ça. À ce moment-là, on peut dire que le chrétien n'est plus seulement animé par l'Esprit, mais qu'il est mu par lui. Alors se réalise pleinement ce que saint Paul a écrit aux Romains dans son épître, là. Les vrais fils de Dieu, les vraies filles de Dieu, sont ceux et celles qui sont mus par l'Esprit de Dieu. Sommes-nous mus par l'Esprit de Dieu? À ce moment-là, plus besoin de ramer à la force des poignets pour avancer vers Dieu. Pourquoi? Parce que le vent souffle dans les voiles, Et la tradition chrétienne appelle don de l'Esprit, don du Saint-Esprit, les voiles, qui, quand elles sont bien déployées, nos voiles sur notre petit bateau, là, mais ça permet aux disciples du Christ de profiter pleinement des motions de l'Esprit. L'Esprit souffle dans ces voiles-là. Et ces dons sont aussi des radars, si on peut dire, des antennes très fines, qui permettent aux chrétiens de capter les messages de l'Esprit, dans le fond de notre cœur. Des antennes qui fonctionnent d'autant mieux qu'elles fonctionnent souvent, Oui, les ouvrir, les antennes. Cela suppose que nous prenions d'habitude d'être à l'écoute de ce maître intérieur, qui enseigne sans bruit. Ce maître ne se révèle qu'au cœur très humble, persuadé de ne rien mériter. Quand on est persuadé qu'on mérite rien, quand on est persuadé que les neurones, les synapses dans notre tête, les yeux, les oreilles, notre cœur, notre corps, notre âme, tout nous vient de Dieu. Formidable. Nous pouvons quand même nous préparer à ces messages, à ces motions de l'Esprit dans le silence de la prière. Pour être docile, pour avoir une idée de cette emprise de l'Esprit-Saint qui s'exerce parfois dans notre vie, rappelons-nous avec quelle force. Ça nous est arrivé certains jours des fois d'être frappé par une parole d'Évangile. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Pourquoi on a été marqué à un moment donné plus fort? C'est que l'Esprit-Saint lui-même nous a fait retentir dans notre cœur une parole de Jésus. Que notre mémoire a enregistré. Moi, c'est quand j'ai adopté mon fils, c'était toujours ce que tu fais au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu le fais. À chaque fois que j'avais le goût de démissionner, cette phrase de l'Évangile me faisait ressusciter. Continuer la marche et la démarche terrible et difficile. Ça attache beaucoup d'importance, la mémoire de ces textes. Ce déclic qui se produit tout à coup dans notre cœur peut changer profondément le cours de notre vie. Mais pour que ce déclic change notre existence, il faut se décider. Il faut crier, Esprit Saint, prends-moi. Pour progresser dans la vie chrétienne, c'est se laisser de plus en plus envahir et transformer par cet esprit. Parce que le vrai but de la vie chrétienne, c'est quoi? Saint Séraphim de Zaroff le disait, c'est l'acquisition de l'Esprit Saint. Alors, pénétré de cet esprit, le chrétien peut s'élancer vers Dieu, peut s'élancer vers ses frères, avec un cœur dilaté, avec une passion, un enthousiasme qui vont grandissant. L'action exercée par le Saint-Esprit dans notre vie chrétienne a donc bien des facettes. Ah, l'Esprit Saint est à la fois le don suprême du Père et celui qui nous dispose à l'accueillir, celui qui nous habite et celui qui nous prépare à recevoir sa visite. C'est celui qui ressaisit. Et celui qui attise notre soif.